Nous n'avons pas d'alliés éternels, et nous n'avons pas d'ennemis perpétuels. Nos intérêts sont éternels et perpétuels, et il est de notre devoir de les suivre. Lord Palmerston, premier ministre britannique au cours du XIXe siècle, connu pour son approche réaliste de la politique étrangère. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire de la géopolitique. Le sujet, le conflit israélo-palestinien. Ce conflit est souvent mal abordé dans la presse, car il est abordé de manière manichéenne. Les Palestiniens contre les Israéliens, les occupés contre les occupants, les Juifs contre les musulmans. Et les deux belligérants sont souvent dépeints à tort comme deux blocs homogènes. Les Palestiniens d'un côté avec le Hamas comme bras armé qui tente de reprendre et de reconstituer un territoire palestinien tel qu'il existait sous l'Empire britannique, voire l'Empire ottoman. Et les Israéliens de l'autre qui tentent de maintenir leur présence dans la région et la stabilité de cette nouvelle nation, Israël, créée en 1948. La réalité est que cette vision est fausse, et c'est cette nuance que je vais tenter d'apporter. Aujourd'hui, il n'y a pas de bloc homogène palestinien, comme il n'y a pas de bloc homogène israélien. Les deux peuples ont des conflits internes, et on en parlera un peu plus loin dans ce podcast, qui ont de grandes chances de provoquer le seul dénouement possible, et surtout réaliste, à cette crise. Tout d'abord, petit résumé des origines de ce conflit. Résumé sommaire car je ne fais pas de l'histoire, je trouve ça assez ennuyeux d'ailleurs. Je fais ou je préfère faire de la géopolitique et d'autres sources sur internet vous parleront d'histoire bien mieux que moi. Donc ce petit rappel historique ne servira qu'à contextualiser mon analyse. La Palestine faisait partie de l'Empire ottoman jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Lorsque l'Empire ottoman s'effondre, la Société des Nations confie le mandat de la Palestine à la Grande-Bretagne en 1920. Mais avant ça, pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, les Britanniques soutiennent la création d'un État juif en Palestine, ou plus précisément, un foyer national pour le peuple juif au travers de la déclaration Balfour émise par le gouvernement britannique par l'intermédiaire de Lord Arthur Balfour. Cette déclaration a marqué le soutien international à l'idée d'un État juif en Palestine. Mais la question qu'on pourrait légitimement se poser est pourquoi ? Pourquoi la Grande-Bretagne a apporté son soutien à cette idée, à l'idée d'un État juif en Palestine ? La Grande-Bretagne, engagée dans la Première Guerre mondiale, cherchait à obtenir un soutien maximum, et notamment celui des États-Unis d'Amérique, au travers des Juifs d'Amérique, et plus précisément des Juifs sionistes, qui constituaient un lobby plutôt influent aux États-Unis à cette époque. La déclaration Balfour a donc été émise dans le cadre de la diplomatie de guerre, ce qui a plutôt bien marché car après cette déclaration, pas uniquement, mais ce fut un argument supplémentaire, l'Amérique isolationniste entre enfin en guerre en 1917 pour soutenir les Alliés. Aussi, pour certains responsables britanniques, la promesse d'un foyer juif en Palestine pourrait contribuer à renforcer leur position dans la région. À l'époque, l'Empire britannique est un empire mondial et les élites britanniques croyaient en l'expansion de l'influence britannique partout dans le monde. Et la déclaration Balfour s'inscrivait dans cette vision impériale car elle établissait une présence britannique dans un territoire stratégique de l'Empire ottoman. Voilà donc le contexte et le deal dans lequel s'inscrit la concession de la Palestine aux sionistes, s'assurer le soutien des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale et créer par la même occasion une base avancée britannique au Moyen-Orient. On peut faire ici une petite parenthèse concernant le sionisme. Qu'est-ce que c'est exactement de manière objective sans tomber dans le délire conspirationniste habituel ? On va en parler simplement en termes historiques et précis. Le sionisme est un mouvement politique et nationaliste juif du 19e siècle et début du 20e siècle qui promouvait l'idée de créer un État juif en Terre Sainte qui comprenait principalement la Palestine ottomane. Le sionisme naît en réaction à l'antisémitisme et aux pogroms en Europe, notamment en Russie. Les pogroms sont des attaques et des pillages contre une population sur des bases ethniques et religieuses, et souvent les deux. Les dirigeants sionistes, dont Theodor Herzl, ont plaidé en faveur de la création d'un foyer national juif pour protéger les juifs des persécutions et de l'oppression qu'ils vivaient à cette époque. Le nazisme n'est que le point culminant de cette oppression des juifs. On parle souvent du national-socialisme, plus couramment appelé le nazisme, pour dépeindre l'oppression des juifs en Europe, mais en réalité, c'est une oppression qui a existé bien avant, et le nazisme n'a constitué que l'expression extrême des pogroms et des attaques contre les juifs d'Europe. Et les sionistes considèrent donc la terre d'Israël, Eretz Israël en hébreu, comme leur terre ancestrale fondée sur des bases historiques et religieuses, notamment la Bible, et ils aspirent à établir un État juif souverain dans cette région. Mais en réalité, les bases sont plus religieuses qu'historiques. Pourquoi ? Parce que les Juifs d'Europe, en réalité, n'ont pas de filiation génétique à la terre d'Israël. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il faut rétablir un peu de précision sur le sujet. Les Juifs ashkénazes, les Juifs d'Europe, essentiellement d'origine ukrainienne, russe, polonaise, sont en réalité les descendants des Khazars. C'est une histoire qui est très peu connue, mais qui commence à refaire surface. On commence à en parler en anthropologie, en histoire, même en politique d'ailleurs, parce que c'est aussi lié au conflit actuel. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, le royaume juif des Khazars était un état médiéval qui a existé dans la région qui correspond aujourd'hui à l'Ukraine, à la Russie méridionale et au Kazakhstan du Nord du 7e au 10e siècle. Et donc c'est un royaume qui se convertit au judaïsme et c'est l'unique cas, j'ai envie de dire, de conversion, parce que le judaïsme en général se transmet par le sang, se transmet par la filiation au travers de la mère, et il est très difficile en général de se convertir au judaïsme. C'est techniquement possible, mais c'est très long, ça prend plusieurs années, c'est fastidieux, et très peu de gens y arrivent, et j'ai envie de dire, très peu de gens tentent l'aventure. Et cette conversion massive des Khazars au judaïsme est un peu un événement exceptionnel dans l'histoire, et c'est comme ça que des Européens génétiques, des Slaves, des Khazars, se convertissent au judaïsme, et la majorité des Juifs ashkénazes, pas tous, mais une grande majorité des Juifs d'Europe, sont en réalité les descendants des Khazars originaires d'Europe centrale. Et aujourd'hui, il y a deux types de filiation juives en Israël. Il y a les descendants des juifs palestiniens ou israéliens qui étaient déjà sur ce territoire, qui étaient déjà à Jérusalem et qui sont originaires du Moyen-Orient. Le peuple hébreu vient de cette région du monde. Et il y a une autre partie, notamment les juifs d'Europe, qui sont plutôt des juifs de conversion. Et c'est pour ça que dans le débat sioniste qui consiste à dire « nous retournons tous à notre terre », la réponse qui est apportée aujourd'hui par les anthropologues, par les historiens, est de dire « une partie des juifs vient effectivement de cette terre, mais il faut être objectif sur la question. Les juifs ashkénazes, les descendants des Khazars, les descendants d'Ukrainiens, de Russes, de Polonais, sont des Slaves et n'ont aucune filiation à la terre de Palestine ou à Jérusalem ou au peuple hébreu d'une façon générale. » Et je pense que le rappel que je viens de faire est nécessaire pour comprendre cette analyse. Il serait faux ou le narratif qui consiste à dire que tous les juifs du monde viennent du Moyen-Orient, ont erré pendant 3000 ans partout sur Terre et aujourd'hui ils tentent de tous retourner, ou une partie, pas tous, hein, y a des juifs qui sont très heureux en Angleterre, en France, aux États-Unis et qui n'ont aucune envie de retourner en Israël et encore moins dans la situation actuelle. Mais beaucoup d'autres qui utilisent cet argument pour retourner en Israël utilisent un argument qui peut être valide spirituellement. Tu peux sentir une filiation spirituelle au peuple hébreu authentique, mais la filiation génétique n'existe pas. Si tu es un slave, ta filiation, c'est une filiation aux Russes, aux Ukrainiens, tu as très peu de chances de descendre génétiquement d'un hébreu du Moyen-Orient. Quand tu es descendant de slaves, tu n'es pas un sémite génétiquement parlant. Et encore aujourd'hui, en Israël, on a toutes ces populations. On a des juifs qui ne sont jamais partis, c'est-à-dire qui ont continué à vivre en Palestine, sous l'Empire ottoman, sous la colonisation britannique, et on a les Juifs qui sont arrivés pendant la Deuxième Guerre mondiale et après 1948, qui sont beaucoup, j'ai envie de dire, des Juifs européens, beaucoup de Russes notamment, et encore plus après l'effondrement de l'Union soviétique, hein, beaucoup de Russes se sont installés en Israël, et cette catégorie-là, même si elle est juive religieusement parlant, est culturellement beaucoup plus européenne qu'orientale. Et on pourrait ajouter à ça une troisième catégorie qui sont des Juifs d'Afrique du Nord et qui sont retournés en Europe après la décolonisation, les Juifs qu'on appelle les Séfarades, qui sont en réalité des Juifs d'Espagne et du Portugal, qui sont chassés par Isabelle la Catholique, qui vivent en Afrique du Nord pendant des siècles et qui, à l'indépendance notamment de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, quittent l'Afrique du Nord pour vivre en France. Et même s'ils sont liés par la même religion, les différences sont assez spectaculaires, ça m'a toujours fasciné. J'avais d'ailleurs demandé à une amie juive qui était d'origine ukrainienne, donc ashkénaze, je lui ai dit « Pour toi, les juifs séfarades, c'est quoi ? Quel est le rapport ?» Ça m'a toujours intrigué. « Quel est le rapport entre les juifs ashkénazes et les juifs séfarades ? Tu les vois comment ? C'est le même peuple ? C'est la même chose ?» Elle me regarde en souriant et elle me dit « Les séfarades, c'est des maghrébins. » En rigolant. Et pour elle, clairement, c'était pas la même chose. Le juif ashkénaze, le juif européen, est largement différent du juif séfarade. Et tu vois clairement que Einstein et Enrico Macias, c'est pas la même chose. Les ashkénazes étant européens, ils sont beaucoup plus techniques, ils sont beaucoup plus portés sur la science, la physique. La majorité des ingénieurs, la majorité des industriels, la majorité des grands capitaines d'industrie juifs, etc., sont en général ashkénazes. Et les séfarades sont beaucoup plus orientaux, quoi. Les ashkénazes, c'est la physique quantique. Les séfarades, c'est plus le couscous et les boulettes, si on veut résumer, si on veut caricaturer. Et Israël est donc constitué aujourd'hui de toute cette diversité de juifs, les juifs authentiques qui n'ont jamais quitté cette terre, donc les hébreux qui ont toujours été là, les juifs européens, les ashkénazes, donc les descendants de russes, d'ukrainiens et de polonais qui ont rejoint cette terre, les juifs séfarades également, et aussi certains palestiniens. Il faut savoir que quand Israël devient un pays en 1948, 20% des palestiniens présents décident de rester et deviennent israéliens. Sur les 950 000 Palestiniens présents sur place, 20% décident de rester et de devenir israéliens. Donc il y a aussi une grande proportion d'Arabes et de musulmans en Israël. Et la Deuxième Guerre mondiale, donc, et le nazisme accélèrent la création de cet État d'Israël. Le sionisme encourage l'immigration juive vers la Palestine, ce qui a contribué à l'accroissement de la population dans la région au fil du temps. Et en fin de compte, comme on a pu le voir, ce n'est pas un seul facteur, mais des facteurs combinés qui ont conduit à la création de l'État d'Israël. La Première Guerre mondiale, la stratégie de l'Empire britannique contre les Ottomans, les pogroms contre les Juifs d'Europe, le projet sioniste pour la création d'un État juif, la montée du national-socialisme en Allemagne, le nazisme, etc. Et tout cela se concrétise en 1948 lorsque David Ben-Gourion, chef de l'agence juive, a proclamé l'indépendance d'Israël, marquant ainsi la fin du mandat britannique en Palestine et le début de l'État d'Israël. Cette déclaration a été suivie par des conflits avec les pays arabes voisins, marquant par la même occasion le début de ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. Et c'est depuis cette date que nous vivons un conflit quasi permanent entre le monde arabe et ce nouvel État, Israël. La situation est assez chaotique. Sur les 950 000 Palestiniens présents en 1948, comme je l'ai déjà rappelé, 20% ont choisi de rester et sont devenus citoyens israéliens, et 80% ont quitté leur terre et vivent aujourd'hui à Gaza, en Cisjordanie, en Égypte, en Syrie, au Liban et partout ailleurs où ils le peuvent. Pour les Palestiniens, la Nakba, qui signifie la catastrophe ou le désastre, fait référence à la période de 1947 à 1949, au cours de laquelle ils ont vécu une série de pertes territoriales, d'expulsions, de déplacements massifs en conséquence de la création de l'État d'Israël. La Nakba est un événement historique central dans la mémoire collective palestinienne et elle est célébrée chaque année le 15 mai. La question des réfugiés palestiniens reste une question fondamentale et non résolue dans le conflit israélo-palestinien. Des millions de Palestiniens se considèrent encore comme des réfugiés ou des descendants de réfugiés de la Nakba et cherchent un droit au retour ou une indemnisation. Depuis 1948, la région vit donc un état de guerre quasi permanent. L'accumulation de tensions entre Israël et les États arabes hostiles à l'implantation de l'État hébreu, en particulier l'Égypte et la Syrie, aboutit le 5 juin 1967 à ce qu'on a appelé la guerre des six jours. À cette même date, Israël lance une attaque aérienne préventive contre l'Égypte en réponse au blocage du territoire de Tiran, une île au sud du Sinaï, en Égypte, qu'elle considère comme un acte de guerre. L'armée israélienne neutralise la majeure partie des forces aériennes égyptiennes, ce qui lui donne un avantage décisif au début de cette guerre, et au cours des six jours suivants, Israël lance des offensives terrestres contre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, et prend la péninsule du Sinaï, en Égypte, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan, en Syrie. On pourra aussi citer la guerre du Kippour, également connue sous le nom de Yom Kippour en arabe, le jour du Kippour. En octobre 1973, elle a opposé Israël à une coalition de pays arabes dirigée par l'Égypte et la Syrie. Cette guerre a été déclenchée par une attaque surprise lancée par les pays arabes le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, avec l'objectif de reprendre les territoires perdus lors de la guerre des six jours en 1967. Voilà donc un condensé de cette histoire. Encore une fois, d'autres pourront vous en parler mieux que moi et plus longuement. Mais l'idée ici, c'était de faire une synthèse avant d'aborder l'actualité, avant d'aborder ce problème tel qu'il existe aujourd'hui et ses évolutions futures et possibles. Aujourd'hui, la carte est la suivante, telle que vous pouvez la voir et l'observer. Un territoire israélien est un ou plutôt deux territoires palestiniens composés de la bande de Gaza à l'ouest et de la Cisjordanie à l'est, qui est un territoire assez confus en parlant de la Cisjordanie et assez dur à décrire parce qu'il est habité par des Palestiniens, occupé par des Israéliens, mais il n'a aucun statut international réel ni frontière officielle. Pour le dire simplement, c'est un véritable bordel. La Cisjordanie était palestinienne sous l'Empire ottoman et britannique, puis elle est passée sous domination jordanienne en 1948, à la création de l'État d'Israël, puis elle a été annexée par Israël en 1967, pendant la guerre des six jours, ou à l'issue de la guerre des six jours. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un potentiel État palestinien, on parle de ces deux bouts de territoire, donc la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et ce que nous raconte l'histoire et l'observation que l'on pourrait apporter, c'est qu'à chaque fois que les Arabes ont tenté des attaques contre Israël, ils ont perdu des territoires. Et je pense que ce qui s'est passé récemment, l'attaque du Hamas depuis la bande de Gaza sur Israël, n'échappera pas à la règle. Je pense que ce qui va se passer, très honnêtement, c'est que Gaza, petit à petit, sera annexée par Israël. Sera d'abord pacifié, le Hamas neutralisé. Peut-être qu'il y aura un gouvernement temporaire pendant un certain moment, mais je pense que la finalité sera pour Israël de récupérer ce territoire. Pourquoi ? Parce qu'il est minuscule, parce qu'il est isolé, parce qu'il est enclavé, car il est impossible de créer un État dans un territoire aussi minuscule, dans une densité de population aussi élevée. Aujourd'hui, Gaza, c'est un bout de terre entre Israël et la mer, avec pas beaucoup de voies d'accès, de circulation, et cette idée d'un État palestinien constitué de deux bouts, de petits bouts de terre, ne fonctionnera jamais, on en parlera à la fin de cette vidéo, c'est sur ça que j'apporterai ma conclusion, parce que ça nécessiterait un pont, une connexion entre ces deux territoires, et lorsqu'on y réfléchit très sérieusement, ce n'est pas sérieux. Donc cette attaque du Hamas sur Israël, comme pour la guerre des six jours en 1967, va simplement mener progressivement à une neutralisation totale de ce territoire, la bande de Gaza, par Israël, en plus de la Cisjordanie qui est déjà petit à petit en train d'être récupérée. Et là, je ne vous dis pas ce qui est souhaitable ou ce qui est bien. Encore une fois, je fais de la géopolitique. Je ne suis pas en train de vous dire ce que je veux ou ce que je souhaite. Je suis en train de vous dire ce qui va se passer en fonction de ce qu'on sait. Et finalement, cette attaque du Hamas sur Israël, malgré les pertes civiles, finira par être une aubaine. Pourquoi ? Parce que faut pas oublier que Israël était en difficulté. J'en parlerai en deuxième partie de cette vidéo où je détaillerai les problèmes propres et internes à Israël. Le gouvernement était en difficulté, le gouvernement de Netanyahou était en difficulté. Il y a beaucoup de tensions. C'était un pays en crise. C'est toujours d'ailleurs un pays en crise. Et l'attaque du Hamas a permis de complètement détourner la tension sur ce qui était en train de se passer. Aujourd'hui, grâce à ça, Netanyahou respire. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs se sont posé la question « comment cette attaque a été possible ?» J'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet, notamment des vidéos d'anciens soldats israéliens, d'anciens membres du Mossad, les services secrets israéliens, réputés les plus performants ou l'un des plus performants au monde, qui ont dit « ce n'est pas possible, c'est une frontière sur laquelle on a constamment les yeux rivés ». Comment pendant 3-4 heures des individus ont pu traverser cette frontière par le sol, par les airs, à pied, en courant, avec des voitures, des motos, des deltaplanes, je ne sais quoi d'autre? Comment est-ce possible? J'ai même entendu un ex-militaire qui racontait que pendant son service militaire, il avait comme mission de regarder les écrans de surveillance pendant 4 heures. Et puis, il se relayait avec d'autres. Mais pendant 4 heures, il avait les yeux rivés sur un moniteur, sur un écran qui filmait la frontière avec Gaza. Il y a donc un grand point d'interrogation sur cette attaque ou sur la possibilité de cette attaque. Comment l'une des frontières les plus gardées et les mieux gardées au monde a pu se transformer en passoire pendant 3-4 heures. Et là, je ne donne pas de réponse, hein. Je ne vais pas donner l'opportunité à certains de me traiter de conspirationniste, hein, donc je ne dirai rien. Je fais simplement l'observation, qui n'est pas uniquement la mienne, qui est celle de beaucoup d'Israéliens, de beaucoup de militaires, de beaucoup ex-agents du Mossad, de beaucoup d'autres services secrets, notamment les services secrets égyptiens, qui ont dit avoir prévenu Israël. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais c'est des choses qu'on peut lire dans la presse. Mais lorsqu'on voit la difficulté dans laquelle était le parti de Netanyahou, lorsqu'on voit les difficultés politiques que rencontrait le pouvoir israélien...
Quelque chose a changé dans l'opinion publique israélienne. Un exemple sur cette chaîne habituellement pro-Netanyahou, un Israélien a dit ça.
Monsieur le Premier ministre, assumez votre responsabilité. Sortez, allez voir les médias et excusez-vous du fait que des milliers de personnes ont été assassinées à cause de vous.
Puis il a été interrompu par le présentateur. Le seul qui accepte de se montrer sur les plateaux télé, c'est lui, le directeur de cabinet de Netanyahou. Mais il a eu beaucoup de mal à justifier le silence de son gouvernement.
Où sont les 33 ministres du gouvernement? On ne les voit pas sur le terrain, ni sur les plateaux télé. Où sont-ils?
Pour l'instant, ils ne peuvent pas aller sur le terrain. Et pour venir sur les plateaux de télévision, il faut venir avec un message.
Ils n'ont aucun message à faire passer?
Non, non, mais ils sont sur le terrain aujourd'hui.
Et c'est vrai, certains ministres sont bien allés sur le terrain, comme le ministre de la Sécurité ou la ministre de l'Écologie hier. Et voilà comment ils ont été accueillis.
Excusez-moi, mais non, ça ne va pas. C'est à cause de vous tout ça. Des milliers de morts à cause de vous. Vous devrez nous rendre des comptes.
Qu'est-ce que vous foutez ici? Allez-vous-en. Maintenant, c'est nous qui allons gouverner. La droite, la gauche, nous serons unis. Sans vous, vous nous avez détruits. Foutez le camp.
On peut se dire, ben, finalement, cette attaque, ça leur a donné un peu d'espace pour respirer, détourner l'attention, et maintenant, tout le monde ne regarde plus que le conflit. On a oublié les problèmes économiques, on a oublié les problèmes politiques et l'incapacité de former une majorité. On a oublié les problèmes religieux au sein même d'Israël, entre les orthodoxes et les laïcs, et tout le monde aujourd'hui ne parle plus que du Hamas et de la frontière et de Gaza. Donc ça, c'est la première observation. À chaque fois que les voisins d'Israël, que les Arabes tentent une attaque, ça profite au final à Israël, qui a l'ouverture, la possibilité pour prendre des territoires. Si Israël avait tenté de prendre Gaza avant cet événement, ça aurait été très mal vu, ça aurait provoqué un tollé international. Aujourd'hui, vu l'ampleur de l'attaque et le danger que représente le Hamas pour Israël, neutraliser, pacifier, récupérer Gaza, c'est presque un acte politique normal. Il n'y a pas d'autre solution. Tu ne peux pas vivre avec un voisin qui t'envoie 5000 roquettes dans la gueule tous les 3 mois. Et ça me permet de faire une transition pour critiquer cette organisation qu'est le Hamas. Pourquoi ? Beaucoup de gens, beaucoup de musulmans soutiennent le Hamas sans savoir ce que c'est ou sans savoir ce qu'ils font. Le Hamas est une organisation qui prend en otage les Palestiniens depuis plus de 20 ans, peut-être même 40 ans. Je ne sais pas quand ça a été créé, ce truc, en 87, en 85. Et leur stratégie, c'est de lancer des roquettes et lancer des attaques depuis des logements, depuis des immeubles, des hôpitaux. Et lorsque Israël riposte légitimement, elle riposte bien sûr vers l'endroit depuis lequel la roquette ou le missile a été envoyé, et forcément ça fait des dégâts civils. Et la stratégie du Hamas, c'est une stratégie de la pleurniche. C'est se cacher parmi les civils dans un territoire extrêmement dense, attaquer Israël depuis ce territoire, et lorsque Israël riposte, ben, ils prennent des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux et montrent, regardez, l'armée israélienne. Et le problème, en fait, le problème, ou une partie du problème, c'est le Hamas. Et c'est le drame de la Palestine. Pourquoi ? Parce que c'est une stratégie qui prend en otage des civils qui n'ont rien demandé. Sans parler du côté religieux, qui est un autre drame du monde musulman. Le problème central dans le monde musulman, c'est que les pays musulmans n'arrivent pas à concevoir la politique sans la religion. C'est le drame, c'est le problème majeur des pays musulmans. Je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi le Hamas, qui officiellement se bat pour une terre, c'est ça le sujet, c'est la terre de Palestine, pourquoi crier Allahu Akbar, Dieu est grand, alors que le sujet, c'est la terre. Et à un moment, il faut savoir, tu te bats pour la terre ou tu te bats pour Allah. Faut arrêter de mélanger les deux constamment. Si tu te bats pour la terre, je pourrais avoir un peu de sympathie pour toi. Pourquoi ? Parce que le combat pour la terre, je peux le comprendre. C'est matériel, c'est palpable. Après, je le valide pas, c'est un autre sujet. Mais je peux le comprendre. Je peux, à la limite, sympathiser avec quelqu'un qui me dit « Je me bats pour ma terre ». Si tu me dis « Je me bats pour Allah », je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas parce que Allah, je ne connais pas. Allahu Akbar, Dieu est grand, Dieu est petit, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, j'étais pas là. Et c'est là que je décroche avec le soutien pour la Palestine parce que ils sont incapables, et c'est le problème de tout le monde musulman, ils sont incapables de dissocier politique et Dieu. À Londres, il y avait une manif pro-palestinienne, très bien, les gens manifestent avec les drapeaux. À un moment, ils s'arrêtent, ils font la prière. Prière collective, Allahu Akbar, machin. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment tu passes du drapeau à Allah ? Pourquoi tu te sens obligé de ramener la religion dans un problème qui est politique, qui est géopolitique ? Et systématiquement, dans tous les pays arabes, à chaque fois qu'une dictature s'effondre, qu'un colon s'en va, qu'un pays prend son indépendance, qu'un régime militaire s'effondre, systématiquement, c'est le parti islamiste qui arrive au pouvoir. En Tunisie, en Égypte, en Algérie, en Syrie, en Libye, dès qu'on laisse les gens voter, dès qu'on leur donne un peu de liberté, c'est les islamistes qui arrivent au pouvoir. Systématiquement, les peuples musulmans ne savent pas considérer la politique autrement que par l'islam. Et moi qui étais au départ, quand j'étais un peu plus jeune, assez séduit par cette idée des deux États, un État israélien, un État palestinien, j'ai complètement changé d'avis sur la question. Et je considère qu'un État palestinien est impossible. Pourquoi ? Si vous me demandez, mais pourquoi l'observateur ? Pourquoi c'est pas ? Pourquoi pas ? C'est possible. Deux États, la paix, chacun chez soi. C'est pas possible. Parce que dès qu'on donnera la possibilité aux Palestiniens de faire un État, le Hamas prendra le pouvoir et ils vont instaurer la charia. Ça sera un État islamiste de plus au Moyen-Orient. Et je vous garantis que ce nouvel État palestinien passera son temps à faire la guerre à Israël, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Même s'il y a un État palestinien, je vous garantis qu'ils continueront à balancer des roquettes sur l'État d'Israël. Et ils en feront même plus parce que ça sera un État, donc ils auront des rapports, des relations internationales, un financement, etc. Et ça va juste aboutir à une guerre civile éternelle, ça ne résoudra rien. Tant que les musulmans ne seront pas capables de séparer politique et islam, rien n'en sortira. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi. Tu laisses la chance à un musulman de voter, il va voter pour le parti de Dieu. Hezbollah, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, Hezbollah ?
Hezb, parti, Allah, Dieu, le parti de Dieu. En Égypte, les frères musulmans, pareil, religieux. En Algérie, le fils, le front islamique du salut, pareil, la même chose. Toujours, toujours la religion, Dieu, Allah, la charia. Ils sont incapables de considérer la politique sans la religion. C'est pour ça que ces pays-là, tant qu'ils ne s'affranchiront pas de la religion, ou du moins, tant qu'ils n'arriveront pas à séparer État et religion, ils n'arriveront à rien. Tout pays musulman ou tout peuple musulman qu'on laisse libre et à qui on donne la possibilité de voter, votera pour les islamistes. Point. Et ça, c'est le problème central de tous les pays musulmans. Et c'est pour ça qu'il n'y a que les monarchies autoritaires qui arrivent à survivre ou les régimes militaires. On a des monarchies en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et on a des régimes quasi-militaires en Égypte, en Algérie, parce que c'est le seul moyen de gouverner. C'est le seul rempart à l'islamisme. Vous laissez demain les Égyptiens voter librement, vous leur donnez demain la liberté démocratique totale, ils mettront un islamiste au pouvoir, je vous le garantis. Il n'y a rien d'autre qui en sortira. Et pour conclure le volet palestinien, avant d'entamer la question propre d'Israël et des problèmes d'Israël, parce que un peu de patience, hein. J'ai tapé sur la Palestine, j'ai expliqué ce qui n'allait pas en Palestine, je vais aussi vous expliquer ce qui ne va pas en Israël. Je ne fais pas de poids, de mesure, Israël a aussi ses problèmes et je vous en parlerai. Mais je vais conclure le volet palestinien avec une citation de Noam Chomsky, le linguiste et aussi activiste anarchiste. Noam Chomsky se décrit lui-même comme un anarcho-socialiste et un libertarien socialiste, hein, donc il est de gauche ou même d'extrême gauche. Et il avait dit dans un entretien, « Les Palestiniens n'ont aucun soutien international pour une bonne raison. Le drame des Palestiniens est qu'ils n'ont ni argent ni pouvoir. Donc ils n'ont pas de droits. C'est comme ça que le monde fonctionne. Tes droits correspondent à ton pouvoir et à ta richesse. »
Part of the tragedy of the Palestinians is that they have essentially no international support for a good reason. They don't have wealth, they don't have power, so they don't have rights. That's the way the world works, you know. Your rights correspond to your power and your wealth. Same inside the United States. We shouldn't be surprised to see it.
Et pour moi, c'est le problème central dans ce conflit israélo-palestinien, c'est que les Israéliens font de la politique. Ils ont le pouvoir financier, le pouvoir industriel, le pouvoir militaire, et ils font de la politique. Même s'ils sont croyants, même si Israël est un État hébreu, même si c'est en partie, c'est de moins en moins le cas, mais c'est en partie fondé sur la religion, la Torah, le Talmud, tout ce qu'on voudra, les Israéliens font la différence entre Dieu et la politique. Je n'ai jamais entendu dans une manifestation pro-israélienne, jamais, je n'ai jamais entendu le mot Dieu, ou Yahvé, ou Moïse, ou ce que tu veux. Jamais. Toutes les manifestations israéliennes sont des manifestations politiques pour Israël. Il n'y a que dans les manifestations pro-palestiniennes qu'on entend Allahu Akbar, le djihad, le prophète, et c'est là où ils perdent toute crédibilité. Ils ne savent pas faire de politique. Et aujourd'hui, ce dont a besoin la Palestine, c'est d'un département marketing. Les mecs ont besoin d'un département marketing. Si je gérais le marketing des Palestiniens, je leur dirais 1. Arrêtez de crier Allahu Akbar. Ça fait peur à tout le monde. Les gens vous suivront pour un combat légitime, pour une terre, pour une dignité. Mais personne ne vous suivra pour Allahu Akbar. Les gens en aura le cul d'Allahu Akbar. Ça suffit, on n'en veut plus. Donc si tu veux te battre pour la terre, fais ton marketing autour de la terre. Si tu veux te battre pour la Palestine, fais ton marketing, développe ta narration autour de la Palestine. Mais si tu commences à créer la confusion, on ne te comprend plus. D'un point de vue communication, d'un point de vue marketing pur, on ne te comprend plus. T'es là à crier comme un poulet sans tête à la Akbar, machin, on va tuer les mécréants, on va décapiter, machin. T'es là, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux une terre? Tu veux une religion? Tu veux le djihad? Qu'est-ce que tu veux faire? Explique-moi, c'est quoi le projet? S'il y a des musulmans qui m'écoutent, il faut que les musulmans arrivent à se mettre dans la tête que Allahu Akbar n'est pas un projet. Crier Allahu Akbar ne veut rien dire. ça ne fait que vous décrédibiliser et vous ridiculiser. C'est tout ce que ça fait. Parce que l'Occident, parce que l'Europe, parce que les Européens sont un peuple objectif, rationnel, matérialiste. Ça fait longtemps qu'on a dit au revoir à Dieu. C'est fini, ça fait longtemps qu'on a séparé Dieu et l'État. Bien, pas bien, t'es d'accord, t'es pas d'accord, on s'en fout. C'est la situation en Europe. On n'est plus sensible à la théologie, c'est fini. C'est pour ça que les gens n'adhèrent pas, et c'est pour ça que ça leur fait peur. Donc, si les Palestiniens veulent un jour arriver à quelque chose, il faut qu'ils arrêtent de faire de la religion et du terrorisme, et il faut qu'ils commencent à faire de la politique, de la vraie politique, du lobbying, de la communication. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose, en faisant de la vraie politique. Le religieux ne mènera à rien. Et c'est pour ça que la Palestine a peu ou pas de soutien international. À part quelques pays ou à part quelques descendants de musulmans en Europe qui font 3-4 manifs à droite à gauche en criant, ils n'ont pas de vrai soutien au sens soutien économique. À part l'Iran, mais l'Iran aussi a un agenda. En réalité, l'Iran s'en branle de la Palestine. L'Iran ne fait que protéger ses propres intérêts géopolitiques, ne fait que de l'agitation pour faire oublier ses propres problèmes internes. Les Iraniens eux-mêmes ne sont pas très religieux, en fait, en général. Il y a peut-être 20% de religieux en Iran, mais la majorité des Iraniens, on en râle le cul des ayatollahs et de tous ces religieux qui ont pris le pouvoir. Donc, l'Iran aussi peut avoir une révolution, exploser et se débarrasser des intégristes. Et ce que fait le pouvoir iranien actuellement, en faisant distraction avec la Palestine, c'est faire oublier ses problèmes internes, c'est tout. Les Iraniens allument des feux de paille, ou plutôt le gouvernement iranien, c'est toujours les gouvernements, les peuples en général. Les peuples sont les mêmes partout. Un homme, partout sur Terre, tu lui dis « qu'est-ce que tu veux ?» Il va te répondre « de la thune, une bagnole et une meuf à baiser ». Tu choisis dans l'ordre, tu peux inverser une meuf à baiser, de la thune, une bagnole. Mais en général, tous les humains veulent la même chose, ils veulent de la dignité. C'est les politiciens qui foutent la merde avec leurs histoires, mais un humain basique, il veut de quoi manger, il veut un peu de thunes pour s'amuser, il veut une meuf à baiser et une bagnole, c'est tout ce qu'il veut. C'est les politicards, c'est les gouvernements qui font de l'agitation, qui compliquent les choses, mais les besoins humains sont assez basiques et ils sont les mêmes partout. Donc ne vous faites pas avoir par les Iraniens qui, eux, font de la politique, ils font de la géopolitique. Donc voilà pour la situation côté palestinien. C'est un peuple qui est pris en otage par les islamistes qui les utilisent comme boucliers humains. L'histoire est la même, ça fait un demi-siècle que ça dure. Ils envoient des roquettes sur le territoire israélien, les Israéliens ripostent. En général, à chaque fois qu'ils ripostent, ils prennent un peu plus de terre. Forcément, c'est l'occasion d'accumuler et de prendre ce qu'on n'a pas pu prendre. Ils ont des rigolos en face, donc ils agissent en conséquence. Et le perdant est toujours le même, le peuple palestinien. Et comme le rappelait Noam Chomsky, je suis assez surpris pour un gauchiste qu'il ait eu cette clairvoyance, parce que les gauchistes ont souvent une espèce d'analyse un peu basique, un peu naïve, les gentils, les méchants, les pauvres palestiniens, etc. Là, Noam Chomsky, c'est un intellectuel de gauche, même d'extrême gauche, un anarcho-gauchiste, qui te dit que les Palestiniens n'arrivent à rien et n'arriveront à rien et n'ont pas de soutien international parce qu'ils n'ont pas de pouvoir et parce qu'ils ne se sont jamais donné les moyens de faire de la vraie politique. Et quitte à me répéter un million de fois, Allahu Akbar, ce n'est pas de la politique. Maintenant, côté israélien, il y a aussi des problèmes internes, beaucoup de problèmes en Israël, qui ont, pour le coup, une chance de régler ce problème. Et je pense que la résolution ne viendra pas de l'ONU ou d'une force extérieure. La résolution de ce problème viendra d'Israël et viendra de la démographie et de l'évolution de la démographie. On en parle peu, mais Israël vit une crise politique assez grave qui n'a rien à voir avec la question palestinienne, mais qui pourrait mener à un réel changement des mentalités. Les politiques israéliens se font aujourd'hui insulter partout où ils vont, et il y a actuellement une vraie crise, une vraie colère populaire en Israël vis-à-vis des élites, vis-à-vis des politiques. Une crise qui est d'ailleurs unique parce que Israël a toujours été un pays homogène, solide, qui se défend contre les ennemis arabes. C'est un pays qui a rarement eu de crise interne grave. Mais là, en ce moment, c'est le cas. Pour commencer, Israël n'a pas de constitution, ce qui est un problème majeur pour une démocratie. Toute majorité au pouvoir peut donc drastiquement changer la loi sans limite constitutionnelle. Donc il y a un vrai problème démocratique en Israël qui devra un jour être réglé. Aucune démocratie ne peut exister sans constitution. La constitution, c'est l'élément qui protège le peuple des dérives du pouvoir. Où se situe la limite s'il n'y a pas de constitution? Il n'y a pas de limite à ce que peut faire le pouvoir. Et ça, c'est un problème majeur qui dure depuis la création d'Israël. Comment tu gères un pays? Comment tu protèges un peuple d'une dérive autoritaire si ce peuple n'a pas une constitution qu'il a votée et qui définit ses libertés, ses droits? Comment tu protèges l'individu des débordements d'un État autoritaire, etc. Donc ça, c'est une première chose à savoir que j'ai découvert, que je ne savais pas. Ça a été un peu une surprise quand je me suis intéressé au cas israélien de découvrir que c'est un pays qui n'avait pas de constitution. Et la crise politique profonde que connaît le pays aujourd'hui peut se résumer comme suite. En avril 2020, après trois élections sans issue, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, deux leaders politiques rivaux, forment un gouvernement d'unité qui a été dissolu en raison de son incapacité à se mettre d'accord. Et en décembre 2020, le gouvernement s'effondre pour des questions budgétaires ou autour d'un désaccord budgétaire. De nouvelles élections ont lieu en mars 2021. Aucune majorité claire n'est apparue à nouveau. Le parti Likoud de Benjamin Netanyahu a remporté le plus de sièges, mais sans avoir suffisamment de soutien pour former un gouvernement. Et après une longue négociation, une coalition diversifiée de partis, comportant des groupes de droite, de centre, de gauche, a réussi à former un gouvernement, enfin, en juin 2021. Et cette crise pose un problème majeur et a des implications majeures pour la gouvernance du pays. Mais que se passe-t-il en Israël? Pourquoi les choses sont en train de bouger au sein même de la population israélienne? Et pourquoi ces changements, y compris démographiques, sont et seront la résolution aux problèmes israélo-palestiniens? Tout d'abord, la démographie changeante fait que les jeunes générations sont de moins en moins religieuses. Et Israël, qui était un État hébreu, est en train d'évoluer vers un État laïque. Et j'ai pu lire beaucoup de critiques en Israël contre les orthodoxes, qui représentent 13% de la population, qu'on appelle également les Haredim, et qui sont un groupe de juifs qu'on pourrait qualifier d'ultra-religieux. La moitié des Haredim travaillent, tandis que l'autre moitié dépend des aides de l'État parce qu'ils pratiquent l'étude religieuse. Et beaucoup d'entre eux passent leur temps à étudier la Torah et d'autres textes religieux dans des écoles qu'on appelle les yeshivot. Contre leur pratique religieuse ou pour leur pratique religieuse, les Haredim reçoivent des avantages sociaux spéciaux de la part du gouvernement israélien pour les subventionner. Et aujourd'hui, de moins en moins d'Israéliens sont d'accord pour financer ce groupe religieux avec leurs impôts. Et c'est souvent ce qui arrive lorsque l'économie se contracte, lorsque on commence à avoir des difficultés économiques. Tout ce qui était toléré à l'époque, toutes les dépenses budgétaires qui étaient tolérées, commence à être surveillé, commence à être moins accepté. Faut savoir que les 20 dernières années, Israël a été la start-up nation. Il y avait des entreprises de la tech dans tous les sens, énormément d'argent, énormément de capitaux. Et depuis la période Covid et peut-être même avant, l'économie s'est un peu ralentie. Il y a moins d'argent de disponible et ça explique peut-être pourquoi les Israéliens qui n'étaient pas trop regardants sur la dépense ou les dépenses générées par les Haredim ou par les ultra-orthodoxes commencent à se poser la question, mais comment ça se fait que cette minorité ne travaille pas et soit subventionnée par l'État? Comment se fait-il qu'ils ne fassent pas leur service militaire alors que tous les Israéliens sont consignés, hommes comme femmes, et doivent faire leur service militaire? Les religieux n'ont pas à le faire. Ça fait quand même beaucoup d'avantages pour une minorité, et c'est une chose qui ne peut plus continuer à exister dans un pays laïque ou dans le pays laïque qui est en train de devenir Israël. Et je pense que c'est ça l'un des grands changements qui risque de se passer, c'est que Israël va basculer d'un État religieux, d'un État hébreu, à un État laïque, un État qui a des fondements autres que religieux. Il y aura toujours des religieux, mais ils ne seront plus au centre des débats, ça ne sera plus la base constitutive des lois et de la constitution qui, peut-être un jour, sera mise en place et votée. Et autre chose, les haredim, les ultra-orthodoxes, les ultra-religieux, ont tendance à avoir de grandes familles, avec en moyenne 12 enfants par famille, contrairement aux familles laïques israéliennes qui ont en moyenne 2 enfants. Et le nombre croissant des haredim suscite des inquiétudes parce que ça renforce le pouvoir politique des religieux par la démographie. Et forcément, plus il y aura de haredim, plus leur pouvoir électoral sera élevé et plus ils vont voter pour des lois pro-religieuses, pro-subventions, pro-aide sociale, pro-aide religieuse, et ils vont encourager des dépenses de l'État pour un budget religieux que les Israéliens laïcs ne veulent pas forcément voir. En sachant qu'Israël est aussi composé de gens qui ne sont pas juifs, de gens qui sont musulmans, beaucoup de Palestiniens ont obtenu la nationalité israélienne. Donc Israël est un pays religieusement hétérogène et le caractère exclusivement juif de cet État devient de moins en moins facile à maintenir. Après, est-ce que les Israéliens vont aboutir à une loi type 1905 qui sépare intégralement l'État, alors pas de l'Église pour le coup, mais de la synagogue, ça deviendra simplement un État moderne, démocratique, avec des lois qui sont basées sur autre chose que la religion. Est-ce que ça ira aussi loin que ça ? On ne le sait pas. Et petite anecdote pour vous raconter un peu à quel point la crise économique est assez pénible et assez difficile à vivre. Quand je voyageais en Pologne, j'ai rencontré un Israélien. Je faisais un pub crawl à Poznan, c'est une petite ville étudiante assez sympa, en Pologne. J'avais sympathisé avec lui, et à un moment, on se faisait chier parce que le pub crawl nous faisait passer dans des bars avec de la musique qu'on n'aimait pas trop. C'était de la musique un peu électronique, techno, et nous, on cherchait quelque chose d'un peu plus vivant, un truc un peu plus latin où tu peux danser. Et on a trouvé sur Internet le Cuba Libre, c'est un bar salsa à Poznan. Et on a donc quitté le pub crawl, on a quitté le groupe du pub crawl, on est allé au Cuba Libre, avant ça on s'est arrêté pour manger, et on a un peu discuté. Et c'est là qu'il m'a raconté la vie à Tel Aviv, plus précisément. Il était informaticien, il vivait, travaillait à Tel Aviv, et il se déplaçait beaucoup grâce à son entreprise. Et il m'expliquait à quel point l'immobilier est en train de partir en couille. Il me dit « je ne peux plus me loger ». Il est informaticien, il a un très très bon salaire. C'est les salaires les plus élevés, hein. Tel Aviv en informatique, c'est à peu près là où tu gagnes le plus. Et il me dit « à 35 ans, je vis encore chez mes parents, je ne peux pas acheter, je ne peux pas avoir un logement, je ne peux pas louer, et je ne pourrai peut-être jamais. Du moins, seul, c'est impossible ». Et si vous ne le savez pas, Tel Aviv aujourd'hui est l'une des villes, peut-être même la ville la plus chère au monde. Et c'est le cas de plein d'Israéliens aujourd'hui, de plein de jeunes Israéliens, qui, contrairement à leurs parents, n'arrivent plus à accéder à l'immobilier dans les grandes villes. Et j'ose même pas imaginer le reste de la population. Le mec est ingénieur en informatique, il bosse pour une start-up qui l'envoie un peu partout dans le monde, il passe son temps à voyager, encore aujourd'hui, et... Je me dis, si lui, qui est en haut de la pyramide, 35 ans, un très bon salaire, n'arrive pas à se loger, avec toutes les conséquences, t'as pas de logement, t'as pas de copine, c'est un cercle vicieux après, hein. T'as plus les conditions de l'intimité, t'as pas d'appart, comment tu reçois une femme chez toi, tu reçois ta copine chez tes parents, bon, c'est marrant quand t'as 17-18 ans, mais quand t'en as 35, c'est une autre histoire. Donc c'est un cercle vicieux de problèmes économiques, difficultés à se loger, problèmes misère sexuelle, forcément. C'est pas anodin qu'il voyage en Pologne, j'imagine qu'il espère respirer un peu, rencontrer des gonzesses dans un pays où ça existe encore. Et c'est intéressant de parler avec des Israéliens parce que ça nous permet de comprendre que d'abord c'est un pays comme un autre, avec les problèmes et tous les problèmes d'un pays moderne. Ça permet de sortir un peu du « les méchants, les gentils, les Israéliens, les Palestiniens », ça permet de comprendre que c'est un pays avec une économie, avec des gens qui vivent dans ce pays, un pays qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, qui est beaucoup moins manichéen qu'on ne le pense, avec beaucoup de Palestiniens qui ont accepté de se naturaliser et qui y vivent. Et surtout, c'est un pays qui est prêt à changer. C'est un pays qui est prêt à devenir laïque, qui est prêt à devenir normal et qui a d'autres aspirations, on va dire les jeunes générations, ont d'autres aspirations que simplement, comme c'était le cas en 1948, créer ce grand État sioniste, socialiste, avec toute l'idéologie. Il faut savoir que les premiers sionistes étaient aussi des socialistes. Il ne faut pas oublier que les premiers colons juifs en Israël avaient formé des kibbutz, qui sont des espèces de collectivités agricoles où tout le monde vivait ensemble dans la même maison, cultivait la même terre, se partageait la récolte à part égale, etc. Il y avait un projet quasi communiste à l'époque. Ça n'a pas duré très longtemps, mais les premières implantations, c'était ça. Avec de grandes aspirations de créer un État socialiste, un État égalitaire, égalitariste, avec l'idéologie sioniste qui était encore très très forte à l'époque. Tout ça est un peu en train de disparaître et de laisser place à une nouvelle génération qui veut surtout un État moderne qui fonctionne. Pas un État idéologique, pas un État religieux, pas un État avec des orthodoxes extrémistes qui votent des lois pour avoir des aides sociales ou avoir des aides pour étudier la Torah pendant 20 ans. Les jeunes générations ne veulent plus de ça. Tu veux étudier la Torah, que bien t'en fasses, mais pas avec l'argent de mes impôts. Tu te démerdes, tu montes un business, tu gagnes de la thune, t'étudies la Torah comme tu veux, mais c'est pas mon travail qui va financer tes années d'études. C'est ça qui est en train de se dire aujourd'hui. Le Haredim qui fait 12 gamins et qui est payé avec mes impôts pour lire un livre toute la journée, ça me motive de moins en moins, ça m'intéresse de moins en moins. Et pour conclure, et en prenant tous ces éléments, toutes ces informations, les évolutions côté palestinien, les évolutions côté israélien, les changements démographiques, font que je pense qu'on va converger vers une solution à un seul État. Et la séquence qui risque de se passer, c'est 1. Prise de Gaza, pacification et prise de Gaza, 2. Intégration complète et intégrale de la Cisjordanie. 3. Intégration et naturalisation des Palestiniens qui le veulent bien. Les autres seront obligés de partir. Voilà, ils iront ailleurs et continueront à émigrer en Égypte, en Syrie. Et là, je ne vous dis pas ce que je veux ou ce que je souhaite. Je vous dis simplement ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que la solution à deux États n'est pas possible. La première raison, elle est géographique, avec deux territoire segmenté, un territoire minuscule comme Gaza et la Cisjordanie, on ne peut pas créer un pays unifié, ça ne marche pas comme ça, une continuité territoriale sera nécessaire, sinon ça veut dire qu'il faudrait un pont aérien permanent entre la Cisjordanie et Gaza, c'est pas sérieux. Géographiquement à la base, ça ne fonctionne pas. Deux, les Palestiniens n'ont pas de structure politique, il n'y a pas les bases pour un État palestinien. Et le problème, c'est que si cet État existe, si un jour cet État avec ses frontières existe, ce qui va se passer, c'est des islamistes au pouvoir. C'est tout. Je ne connais aucun pays avec une population musulmane qui a évolué vers une démocratie totale. Systématiquement, après les décolonisations, après le départ d'un dictateur, Moubarak en Égypte, Zine El Abidine en Tunisie, systématiquement après le départ des dictateurs, les populations ont voté pour le parti islamiste et l'armée a été obligée de revenir au pouvoir pour calmer le jeu. En Libye, Kadhafi s'en va, largement provoqué par les Occidentaux qui ont créé un drame en Libye, c'est dramatique, ce qu'on a fait, ce qu'a fait la France, l'Angleterre, les États-Unis. Mais Kadhafi s'en va, ce qui se passe, c'est la charia, c'est le marché aux esclaves. En Libye, aujourd'hui, il y a des marchés aux esclaves, autorisés par la charia, parce qu'en islam, l'esclavage est autorisé et il n'a jamais été aboli. J'en parlerai, je ferai des vidéos sur l'islam à l'avenir, texte à l'appui, je défie tout musulman de me montrer une seule ligne dans le Coran ou dans les hadiths qui abolit l'esclavage. Il n'y en a pas. Je vous donne la réponse, il n'y en a pas. L'esclavage est autorisé et régulé en islam. Et c'est pour ça qu'on a un marché aux esclaves en Libye. D'ailleurs, l'esclavage n'a été aboli qu'en 1962 en Arabie Saoudite. Jusqu'en 1962, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un marché aux esclaves devant la Mecque. Voilà, la Kaaba, le même endroit où les gens vont en pèlerinage. Jusqu'en 1962, il y avait un marché aux esclaves parce que, du point de vue de la charia, c'est parfaitement légal. Et la Palestine ne fera pas exception. Si un territoire palestinien existe, ça sera un énième pays islamiste. C'est tout ce qui va se passer. Donc l'avenir probable, c'est que Israël va annexer Gaza et l'attaque du Hamas vient de donner une excuse, même une opportunité pour Israël de le faire. Va finir aussi le travail en Cisjordanie et intégrer complètement la Cisjordanie à Israël pour constituer un seul territoire. Et encore une fois, je ne vous dis pas que c'est ce que je veux, je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Ici, on fait de la géopolitique. Je vous dis que c'est ce qui sera. Il y aura une deuxième vague de naturalisation de Palestiniens, comme ça a été le cas en 1948. Il y a déjà eu 20% de la population palestinienne qui a été naturalisée en 1948, qui est devenue israélienne. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. Et de plus, petite parenthèse, je pense que contrairement à ce que disent les gens, les Palestiniens sont parfaitement intégrables. C'est des Levantins comme les Libanais, c'est des gens, c'est pas des gens violents. En fait, c'est un peuple parfaitement intégrable. Malheureusement, c'est un peuple qui est aujourd'hui manipulé par les islamistes, manipulé par le Hamas, manipulé par cette petite poignée de fondamentalistes soutenus, ou plutôt aidés par les frères musulmans d'Égypte, par l'Iran, par le Qatar aussi, l'Arabie Saoudite, qui en sous-main finance ces groupes. Mais si tu laisses les Palestiniens tranquilles, si tu les laisses vivre normalement, tous les Palestiniens que j'ai rencontrés partout dans le monde sont des gens incroyables. La diaspora palestinienne ne génère pas de délinquance. Les Orientaux, d'une façon générale. À Londres, les Palestiniens, les Iraniens, les Libanais ne posent aucun problème. Il n'y a jamais eu d'émeute ou de problème avec ces populations-là. Palestiniens, Libanais, Iraniens, c'est toujours des diasporas éduquées qui font des études, qui s'intègrent. Il n'y a pas de problème avec ces populations. Donc si on arrête de les manipuler, si on arrête de les pousser au djihad et au terrorisme, moi je pense qu'ils peuvent très bien s'intégrer et avoir un avenir en Israël. Je ne dis pas que c'est l'idéal pour ceux qui veulent avoir une terre palestinienne, je ne dis pas que c'est l'idéal pour ceux qui veulent revenir à l'Empire ottoman, ils vont être déçus. Mais encore une fois, ici on fait de la géopolitique, on ne fait pas ce que je veux, ce que tu veux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que Allah et son prophète veulent, on n'est pas là pour discuter de ça. On est là pour discuter ce qui va arriver et ce qui va d'une manière réaliste arriver. On a d'un côté des Israéliens qui ont prouvé qu'ils savent gérer un pays, ils savent créer un État et le gérer, et d'un autre côté, on a des Palestiniens qui sont utilisés comme boucliers humains par des islamistes. Il n'y a pas photo. Vous croyez que si un État palestinien est créé, le Hamas va s'arrêter? Vous croyez que si un État palestinien est créé, le Hezbollah au sud du Liban va s'arrêter? Je vous le dis tout de suite, ça va partir en couille. Déjà, ils ont des problèmes entre eux. Ils ont un ennemi commun, donc ils s'entendent plutôt bien. Mais à la base, le Hezbollah, c'est chiite, c'est une autre branche de l'islam. Le Hamas est plutôt sunnite. Donc je vous garantis qu'à la moindre opportunité, ils vont se foutre sur la gueule. Il n'y a aucune issue possible avec le Hamas et le Hezbollah. Aucune. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de faire de la politique. Tant qu'ils crieront « Allahu Akbar », personne ne les prendra jamais au sérieux. La géopolitique, ce n'est pas de la religion. La géopolitique, ce n'est pas l'Allahu Akbar. La géopolitique, ce n'est pas ce que je veux, ce que tu veux. La géopolitique, c'est un rapport de force. Nous n'avons pas d'alliés éternels et nous n'avons pas d'ennemis perpétuels. Nos intérêts sont éternels et perpétuels. Et il est de notre devoir de les suivre. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.